l'espace d'eux.
Nous profitons d'une chaleur toute estivale. Le technicien Fabrice Junot, qui est à mes côtés ce matin, a installé un camion prise de son à l'extérieur de la cathédrale Saint-Pierre. Cette magnifique cathédrale qui est devenue le centre d'activité du réformateur Jean Calvin au XVIe siècle. Nous nous trouvons ainsi à l'arrière du bâtiment. Il y a une fontaine pas loin, des arbres, des oiseaux. Et nous sommes comme dans une petite oasis de paix en plein centre de la ville de Genève. Une atmosphère des plus propices, ma foi, à la méditation. Le pasteur Vincent Schmid, qui préside le culte, s'arrêtera tout à l'heure sur le verset de l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 30, où Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais où que vous soyez en ce moment, bienvenue à vous pour cette heure de culte. Ce matin, à la cathédrale Saint-Pierre à Genève, la prédication est confiée au pasteur Vincent Schmid, les lectures à Liliane Schnitter. Vincent Thévenat est à l'orgue et nous sommes accompagnés ce matin par la voix de la cantatrice Elisabeth Gilming. L'assemblée chante dans le recueil psaumes et cantiques et elle est entraînée par le chantre Thierry Mermot. Pour vous permettre de vivre cette célébration, en plus de Fabrice Junot qui est sur place pour assurer la prise de son, c'est Didier Rossa qui est en régie à Lausanne. Pour débuter ces instants, nous vous proposons tout de suite à l'orgue le premier mouvement de la première sonate en trio de Bach.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à vous, paroissiens, qui êtes rassemblés ce matin ici à Saint-Pierre de Genève Bienvenue à vous, auditeurs d'Espace 2, qui nous rejoignez maintenant pour ce culte. Nous invoquons la présence de Dieu. Nous voici, ô Père, rassemblés en ta présence, chacun de nous avec sa vie que tu connais. Chacun de nous avec son passé vient vers toi. Toi qui es le Père de tous et de chacun. Chacun avec sa vie que tu connais et son passé. Ouvre nos cœurs à ta présence. Nous t'en prions. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au numéro 22, les strophes 1 et 3. À la fin de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci. Les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous donc quand tu nous trouves enfermés en nous-mêmes. Notre mission est d'être une lumière pour le monde. Ouvre nos yeux quand nous ne voyons plus que son obscurité et sa confusion. Et pardonne-nous quand nous oublions ta lumière. Tu attends que nous parlions d'espoir à nos frères et à nos sœurs. Renouvelle nos cœurs quand la crainte et le découragement tarissent notre joie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Loué sois-tu, ô notre Dieu, pour ton pardon en Jésus-Christ. Tu es le consolateur, c'est toi qui apaises les esprits tourmentés. Il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses chasser. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son matin. Sûr de ta parole, notre foi reste paisible au milieu des troubles, portée et renouvelée par ton esprit créateur, et ainsi renouvelé par la promesse indéfectible de ton pardon, nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Il est la source et le but de toutes choses, et l'esprit qui anime tous les êtres vivants. Nous sommes les disciples de Jésus, qui vivait de la présence de Dieu et la révélait aux hommes. Il a vécu et il est mort par amour, mais l'amour est plus fort que la mort. Nous voulons suivre la volonté de Dieu, vivre et œuvrer en communion avec tous les gens de bonne volonté, pardonner et recevoir le pardon, et ensemble avancer vers celui qui attire tout homme à lui. Amen.
Oh. Nous lisons Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit : Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Puis nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, les versets 10 à 15 et le verset 19. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et le verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire sainte parole avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Nous prions. La prière de Grégoire de Nazianze. De quel nom t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Parle-nous. Nous t'écoutons et nous chantons au chant 405, les strophes 1 et 3.
Penchons-nous sur un passage de l'évangile de Marc, aussi sympathique que rare. Sympathique parce qu'il s'agit d'un échange amical entre Jésus et un savant versé dans les Écritures saintes. Rare parce que nous sommes plutôt habitués à percevoir Jésus à travers le prisme des polémiques entre la synagogue et les premiers chrétiens. Dans le Nouveau Testament, se fait l'écho. Même si les différences entre chrétiens et juifs demeurent, nous n'avons plus aucune raison aujourd'hui d'endosser ces querelles très anciennes. Surtout qu'elles nous masquent la profondeur à laquelle Jésus lui-même s'enracinait dans sa propre tradition. Quel est le plus important des commandements? C'est une question classique de l'enseignement des rabbins. Peut-on résumer la loi de Moïse en une seule formule? On cite volontiers le mot de Hillel l'Ancien. Hillel l'Ancien est un maître qui vécut à l'époque de Jésus. Un jour, un gentil, c'est-à-dire un non-juif, c'est ainsi que à l'époque on appelait les non-juifs, les gentils, un gentil vint demander à Hillel de lui apprendre la loi dans sa totalité. Et Hillel lui déclara, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. » Pour sa part ici, Jésus répond par des citations extraites du Deutéronome, et je retiens celle-ci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il est toujours instructif de se référer au texte original lorsque celui-ci est cité dans le Nouveau Testament. En comparant avec Deutéronome 6 d'où il est extrait, nous constatons que Jésus ajoute une glose de son cru, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée », ce qui ne se trouve pas dans l'original. Est-ce que cela sous-entend que sa propre tradition aurait oublié la pensée et que Jésus essaye de combler cet oubli? Évidemment non. Jésus insiste plutôt sur un élément qui est présent depuis toujours. La pensée dans la Bible est un des modes de relation de l'homme avec Dieu. Mais Jésus pense à ces non-juifs qui s'adressaient à lui, comme on allait s'adresser à Hillel. Et il dit à leur intention ce qui va sans dire, mais qui va quand même mieux, en le disant. Et vous l'avez entendu, le scribe approuve pleinement. Alors ma question sera simple. Qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu de toute sa pensée? Eh bien, je vois trois orientations à la fois concrètes et très actuelles. La première concerne La transmission de la foi. La foi, ça n'est bien sûr pas une science que l'on pourrait enseigner, comme l'arithmétique. Mais elle demande quand même quelques connaissances, à commencer par celle de la Bible. De même, exprimer sa foi, ça demande un minimum d'ordre et de méthode. En tout cas, si on veut être compris, si on veut être crédible. Donc, il y a forcément de la pensée dans la foi. Ça n'est pas possible autrement. Or, aujourd'hui, un problème sérieux consiste dans ce qu'un auteur a appelé la sainte ignorance. L'analphabétisme religieux se répand de plus en plus. On le constate tous les jours et pas seulement chez les jeunes. La perte de repères est évidente. La transmission se fait de plus en plus mal. Or, aimer Dieu, c'est quand même poser et transmettre des repères pour nos contemporains et pour les générations futures. En second lieu, aimer Dieu de toute sa pensée, ça consiste à prendre du recul par rapport à l'émotion collective et aux formules toutes faites. Prenons l'exemple de quelqu'un qui choisit de devenir chrétien et qui entre dans l'Église. La grande affaire pour lui va s'énoncer ainsi. Vais-je me satisfaire du confort d'être entre soi dans un petit club, me contenter de la chaleur du groupe, ou vais-je essayer d'aller un peu plus loin? Vais-je adopter un credo tout fait, adhérer à une sorte de pensée unique, ou bien apprendre à réfléchir par moi-même? Le but n'est-il pas de marcher avec un Dieu personnel, comme nous disons, pour qu'il m'aide à trouver ma propre voie? Vous savez, jadis on donnait le nom au moment du baptême. Pourquoi? Pour indiquer que Dieu s'adresse à ce qu'il y a de plus unique dans la personne. La foi de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ça n'est pas la foi en général. C'est la foi pensée par Matthieu, par Marc, par Luc ou par Jean. La troisième orientation, aimer Dieu de toute sa pensée, ça consiste à être capable de sortir de soi pour communiquer avec les autres. Cet aspect est abordé par l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens à propos de ce qu'il appelle le parler en langue. Il s'agit d'une manifestation mystique. Il n'en conteste pas la réalité. Peut-être certains d'entre vous ont assisté à ce phénomène. Mais il trouve que son principal défaut, c'est son hermétisme, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien du tout. À quoi sert une révélation privée si je ne suis pas capable d'en expliquer le contenu aux autres? Pour Paul, l'intelligence, c'est ce qui rend intelligible. C'est ce qui établit un lien de compréhension entre moi et les autres. Alors l'enthousiasme spirituel, qui n'est pas illégitime, ne doit pas faire oublier l'exercice de la pensée. La foi, c'est de la communication, c'est du dialogue avec nos frères et sœurs chrétiens, bien sûr, mais aussi avec nos contemporains, quels qu'ils soient, avec la société civile, avec la culture, avec les sciences. La foi n'a rien à craindre du monde profane. Je dirais que ce serait plutôt le contraire. Il n'est rien de pire qu'une foi craintive, recroquevillée sur elle-même, parce qu'elle risque alors de basculer dans l'insignifiance. Ou bien parce qu'elle est plus comprise, ou bien parce qu'elle n'a rien à dire. Et ça, ça nous menace. Et dans les deux cas, c'est de notre faute. Il y a un déficit de pensée de notre part. Nous ne servons pas Dieu comme le Christ nous le demande. Maintenant, ces trois choses dites, il y a encore une orientation supplémentaire de l'amour de Dieu par la pensée qui est moins évidente que les précédentes, mais qui est suggérée par le récit de Marc lui-même. Vous avez entendu le scribe commenter la réponse de Jésus. Ce que tu dis vaut plus que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Et Jésus trouve cette remarque du scribe pleine de sagesse, pleine d'intelligence. La pensée aurait donc quelque chose à voir avec le fait de distinguer le fond de la forme, l'essentiel de l'accessoire, l'esprit de la lettre. Il se pourrait bien que ce soit une recommandation de lecture, puisque nous sommes en plein dans des citations de l'Écriture. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est lire l'Écriture sainte avec toute son intelligence. Vous le savez, mais je le répète, Dieu n'a pas prononcé chaque mot, chaque expression ou chaque phrase de la Bible. Elle n'a pas été écrite sous sa dictée directe. Il ne l'a pas fait descendre du ciel, verset après verset. La parole incréée, c'est-à-dire cette parole toute faite qui viendrait d'au-delà de la création, c'est un mythe, c'est une impossibilité ici-bas. Pourtant, c'est à travers ce vaste recueil de témoignages humains que sont les Écritures saintes que la parole de Dieu peut surgir. Comment ? Eh bien, le philosophe Emmanuel Lévinas a eu une très jolie formule. Il a dit « la lettre, c'est l'aile repliée de l'esprit. Et le travail de la pensée sur la Bible, ça consiste à déployer les ailes de la lettre afin qu'elle nous frôle, qu'elle nous inspire, qu'elle nous donne des perspectives et des éclairages sur nous-mêmes et sur notre vie. Au détour d'un de ces innombrables sermons, Jean Calvin se laisse aller à une affirmation surprenante. Il dit « La Bible est une chose morte, sans aucune vigueur. » Fin de citation. Ça n'est pas un lapsus, ni un dérapage. Le réformateur considère que matériellement, la Bible n'est qu'un livre parmi d'autres. Elle ne devient parole de Dieu que sous l'action du Saint-Esprit. Au cours du culte, nous prononçons toujours une prière d'illumination au moment des lectures. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu de nous guider afin que ça nous parle. Il arrive souvent que des paroissiens disent au pasteur à la fin du culte « Ah, ce matin, vous avez parlé pour moi. » Mais ça n'est pas moi, ça n'est pas moi seulement. C'est un autre qui nous a reliés, un autre que nous appelons le Saint-Esprit. J'en déduis que le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec l'excitation nerveuse, mais que le Saint-Esprit, c'est aussi de la pensée. Au fond, notre pensée est rendue amoureuse de Dieu et du coup, capable de déployer les ailes de la lettre pour soi-même et pour autrui. La parole de Dieu ne vient pas d'une façon passive. Elle exige un investissement total de nos forces mentales et intellectuelles. Imaginez par exemple que nous ne préparions plus nos cultes. Voilà, un jour on dit, ben, les cultes c'est ennuyeux, alors on ne les prépare plus et on va voir ce qui va se passer. Nous laisserions libre cours à la spontanéité, au happening, à l'improvisation permanente. Mais ce serait dramatique, insupportable. Le Saint-Esprit n'est pas un kit de secours pour les paresseux. Et l'échange entre Jésus et le scribe se conclut par ces mots « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». On termine ce passage par un hommage magnifique du Seigneur à l'intelligence humaine tendue vers Dieu. Et en même temps, entendez bien, c'est aussi une limite en filigrane. Aimer Dieu de toute sa pensée ne signifie pas qu'on puisse espérer le comprendre. Dieu est par définition incompréhensible. Notre pensée ne nous fera jamais entrer dans son secret. Elle ne nous rendra jamais semblables à lui. Elle nous prépare seulement à recevoir le royaume qui s'approche de nous en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos soucis, de nos préoccupations, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon et recevoir la paix que tu donnes. Pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus, les équilibrés. Et pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas et qui sont souvent fatigués et lassés. Nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et où l'on donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci, ô Père, pour la patience et l'amour que tu as eus pour tes disciples. Merci de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Amen. Et je vous invite à présent à chanter au numéro 354, et nous chantons les trois strophes de ce cantique. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Soyez remerciés de votre don, qui est l'aide que Dieu nous accorde pour poursuivre notre mission dans cette paroisse et dans cette vieille ville de Genève. Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, tu viens juger par le Messie. Je vous invite à prononcer d'une seule voix la prière que Jésus a laissée aux disciples et qui est la prière de tous les chrétiens, quelle que soit par ailleurs leur confession particulière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction, vous, paroissiens de Saint-Pierre, qui êtes rassemblés ici ce matin, et vous, chers auditeurs d'Espace 2, qui nous avez rejoints pour cette heure de culte. À vous tous, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui surpasse toute intelligence. Amen.
Il est l'heure pour nous de prendre congé des paroissiens réunis ce matin à la cathédrale Saint-Pierre à Genève. C'est le pasteur Vincent Schmid qui a présidé ce culte, Liliane Schnitter a prêté sa voix aux lectures, Vincent Thévenat était à l'orgue, Elisabeth Gilming au chant. Ce culte radiodiffusé vous était proposé avec toute une équipe en coulisses dont Sabine Peterman, productrice, et Pauline Ehren, assistante de production. Vous pouvez relire la prédication du jour. Pour cela, il vous suffit de nous contacter, nous vous l'enverrons. Notre numéro de téléphone est le 058 236 66 22, 058 236 66 22. Pour commander un enregistrement du culte, vous pouvez également nous joindre par Internet via l'adresse www.celebrer.ch, un site sur lequel vous pouvez laisser vos commentaires. Notre adresse postale est Mediapro, Radio-Télévision Suisse, avenue du Temple 40, 1010, Lausanne. Au programme de RTS Religion, rendez-vous ce soir dans Haute Fréquence, notamment pour un dossier sur la faculté de théologie de Neuchâtel qui ferme ses portes le 31 juillet, après 500 ans d'histoire de la réforme dans le canton. Haute Fréquence, ce soir à 19h sur RTS La Première. Dès demain et dans l'émission À vue d'esprit, nous ouvrons une deuxième semaine sur les croisades du Moyen-Âge qui ont laissé une profonde empreinte dans l'histoire Orient-Occident jusqu'à nos jours. La prise de Jérusalem par les croisés, la riposte de Saladin, personnage légendaire, le programme s'annonce riche avec de nombreux intervenants. À vue d'esprit à 16h30 sur RTS Espace 2 tous les jours de la semaine. Fabrice Junot, Didier Rossa et Gabriel de Sarzon vous souhaitent une très belle suite de journée. Après les informations, vous avez rendez-vous entre les lignes. Il est 11h.